Ah.
L'âme, c'est Flo. C'est le Gaspichuroco. D'après les statistiques, 100% des auditeurs s'arrêtent à mon jingle. Alors, à la semaine prochaine!
Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le Cafuccioroco. Salut Damien.
Salut Flo, ça va?
Ah, tranquille, et toi?
Bah nickel. Alors écoute-moi bien, dans cet épisode, on va parler, pour le nouveau, de saucisses et de cailloux.
Pour l'ancien, de Maxime le Fou.
Pour l'insolite, d'une communauté noctambule.
Et pour l'emprunté, d'une abeille sous hormones. Et ça commence tout de suite.
Voici les nouveautés culturelles. Quelque chose me dit que ça ne sera pas un bouquin.
Alors mon Flo, pour le 9, je voudrais te parler d'un film qui est sorti en 2022 et qui s'appelle Everything, Everywhere, All at Once.
Oh, ok. Alors je suis curieux de voir ce que tu vas me dire dessus.
Est-ce que tu le connais?
Je l'ai vu.
Ok, très bien. Donc c'est un film américain qui mêle la comédie, le drame et la science-fiction. Film réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Donc en fait, ce film, il suit l'histoire de la famille Yu, dont la matriarche, qui s'appelle Evelyn, découvre qu'elle est en mesure d'accéder à des versions alternatives d'elle-même dans des univers parallèles. Et en fait, tout le long du film, elle va jongler entre ses différentes identités pour se lancer dans une quête pour sauver son univers et sa famille d'une menace imminente. Ce ouais. film, c'est une dinguerie, c'est du n'importe quoi. Moi, je me suis régalé.
Ah, ok.
Carrément. Toi,
comme tu dis, c'est en fait, le résumé veut rien dire. Enfin, ça raconte pas le film, quoi.
Ah bah.
Parce qu'il faut, ouais, c'est un ovni le truc. Il faut le voir pour comprendre un peu. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et pour moi, c'est les films que je classe dans les films seg.
Ah oui, je vois.
Effectivement, c'est un ovni et j'aime bien ça, moi, d'habitude. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait un sens. Et là, je l'ai. Alors, des fois, je me dis, je suis peut-être un peu con. Hein. Mais là, j'ai pas bien percuté le truc.
Alors,
et en fait, j'ai pas accroché, tout simplement. C'est pas
allez,
compliqué que ça.
Bah, si tu veux, en général, on va pas dans l'analyse pour éviter le spoil. Mais en fait, je vais aller plus loin dans le film pour une petite analyse, si tu veux.
Allez.
Ça aidera au niveau du film. En fait, le film, donc, c'est un bordel. Donc, en fait, cette femme, on commence au début. Donc, en fait, c'est, vous imaginez, cette famille de Chinois aux États-Unis qui tient une laverie où, en fait, son seul plaisir, elle, c'est de temps en temps, elle chante des karaokés. Tout ce qu'elle entreprend, elle ne finit jamais. Et en fait, dans l'histoire du film, elle va se rendre compte qu'en fait, ces univers parallèles, en fait, vous savez, c'est le feeling où, en fait, vous allez tirer une pièce et selon pile ou face, ça va créer un monde parallèle où, en fait, qu'est-ce qui serait passé si, finalement, la décision a été différente. Et en fait, au niveau du film, c'est là où c'est dingue, c'est qu'elle découvre que dans les univers parallèles, c'est chacun des choix qu'elle a fait ou abandonné. En fait, dans un autre univers, en fait, son personnage aurait continué. Ce qui fait qu'elle découvre que dans un monde, elle était une star internationale, dans un autre, c'était une chanteuse, dans un autre, c'était une championne de quelque chose, etc. Sauf que notre personnage qu'on suit, nous, dans notre monde à nous, en fait, c'est juste une femme qui a pas trop réussi. Elle a un mari qui l'aime, mais même elle ne peut plus le supporter. Elle a une fille qui presque les déteste. Enfin,
ouais,
elle n'est pas heureuse.
Ado,
ouais. Et en fait, si tu regardes bien ce film, c'est là où en fait, ça va loin. C'est qu'en fait, c'est un film qui parle de la charge mentale. En fait, notre personnage est constamment débordé. Et en fait, dès le début, tu le vois, elle est dans tout. Il y a des voisins qui viennent demander des trucs, elle doit gérer son papa, il y a son mari qui est un vrai gamin qui fait que des conneries, sa fille qui fait que se rebeller, fuguer, machin, ne pas écouter, etc. Elle essaie de tenir, et elle rêve de faire des passions qu'elle n'arrête pas d'abandonner, parce qu'en fait, elle n'y arrive pas, parce qu'elle se sent dépassée par tout ce qu'elle rencontre. Et en fait, le film te dit, cette femme, on le voit, elle est à deux doigts de la crise de nerfs, elle est en charge mentale, et en fait, le film va dire, on va aller plus loin, et en fait, cette femme, en même temps, parce qu'en fait, c'est ce qui va commencer à se passer dans le film, c'est qu'elle est capable en même temps de vivre chacune de ses vies. Et en fait, c'est là où t'as l'analyse de la charge mentale, c'est-à-dire qu'en même temps, Mais il y a des scènes où en fait qui sont assez marrantes, où en fait elle est capable de faire deux choses en faisant le même geste,
ah, oui.
mais avoir deux actions. Il y a une scène où elle est dans l'administratif en train de faire la paperasse, mais en fait elle est en train de se battre, sauf que la chorégraphie, le mouvement est exactement le même. Et en fait c'est là où on en revient, mais d'un point de vue plus science-fiction, mais en fait elle va gérer sa charge mentale en essayant de tout faire en même temps, ce qui est impossible en fait. Et d'ailleurs, au niveau de la morale du film, elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre chacune de ses vies. En fait, elle doit en choisir qu'une seule. Et même en les vivant réellement, alors qu'elle, jusqu'à présent, elle a juste rêvé de vivre ces vies-là, même en les vivant en même temps, c'était insupportable parce qu'il fallait faire un choix. Au bout d'un, il n'y en a qu'une que tu peux accepter. Et en fait, c'est le problème de la charge, c'est qu'en fait, d'arrêter de vouloir que tout arrive au bout de toutes les choses. Ouais, c'est juste se concentrer sur une seule. Et dans le film, la morale, c'est que la seule chose qui était importante, c'était sa famille.
Ah, mais tu spoil la fin carrément, toi.
Non, parce que c'est pas exactement la bonne réponse. Mais voilà, donc en fait, pour moi, au niveau de l'analyse, c'était ça. Et en fait, quand elle est constamment débordée, parce qu'elle se prend des flashs de ce qui se passe, parce qu'elle se fait agresser dans un monde, puis il se passe quelque chose, il y a un personnage qui peut l'embrasser alors qu'elle est en train de se battre, et qu'en même temps, quelqu'un lui parle et qu'il attend qu'elle réponde. Et en fait, on est sur de l'analyse de la charge mentale de la mère de famille.
Effectivement, j'avais pas eu cette lecture-là. Mais en fait, c'est, malgré le fait que je ne l'ai pas spécialement aimé, c'est un film que peut-être que je reverrai une deuxième fois. Parce que justement, toi, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose.
Bah, après, il est barré. Ça, c'est un fait. Tu vois, déjà, peu importe l'analyse, etc.
Il y a de la bagarre, quoi. Alors que on part
puis il y a des scènes qui sont complètement barges, en fait.
On parle des cailloux, par exemple. Sans aller plus loin.
Les cailloux, si je te dis les saucisses, si je te dis les armes originales, il y a tellement de choses dans ce truc-là. Mais visuellement, en plus, moi, j'y suis assez sensible, tu le sais bien.
Oui.
Et il y a un travail sur l'image qui est incroyable.
Ça, oui.
Et du coup, l'actrice qui joue Evelyn, en fait, elle est très connue, en fait, cette actrice. Ben, on l'a vue, donc les dernières années, on l'a vue dans Shang-Chi, on l'a vue dans Mystère à Venise. Lui, il faudrait que j'en parle un jour. Une sorte de film Cluedo, dans The Witcher, Tigre et Dragon, parce qu'en fait elle est dans le cinéma américain depuis des années. Et d'ailleurs, tu vas être content, Flo, elle apparaîtra dans Avatar 3 et 5.
Ah ben ça me. Je suis rulte de joie.
Tu vois, ça. Je suis rulte de joie. Donc voilà, donc Everything, Everywhere, All at Once. C'est de la bombe. Après, accrochez-vous. C'est-à-dire que faut être motivé et bien suivre parce que ça part tellement dans tous les sens, mais avec grand plaisir. Pour moi, c'est une seg, peut-être, je te l'accorde.
Une bonne seg.
Mais je suis pas. Mais c'est une bonne seg, c'est ça. C'est la seg qui te fait du bien à la fin. C'est pas ce seg intellectuel où en fait t'es frustré à la fin parce que tu te dis finalement je suis juste irrité et faut que j'aille prendre la douche. Voilà.
Quelle belle façon de finir cette reco.
Voilà, je suis très bon pour, pour l'imagerie sexuelle.
Je suis prêt à passer à la suite.
Ok.
Mais merci. Allez, on attaque.
Avec plaisir.
Moi, dans 10 ans, ce sera Pod Patrouille et Miraculous. Mais pour vous, c'est quoi la reco de votre enfance?
Pour l'ancien, on va rester dans le cinéma et on va aller plutôt dans un décor post-apocalyptique. Avec la série de films Mad Max. Alors, tout a commencé en 1979 avec un film réalisé par George Miller, puis très vite avec deux autres films en 81 et en 85. Donc c'est assez vieux, hein, c'est à notre âge à peu près.
Et pourtant,
Mad Max, pourtant je ne sais pas ce que tu vas dire, mais
oui, alors, en fait, je faisais un signe de tête en mode « et pourtant trop bien », mais en fait, c'est vrai que personne ne peut le voir.
Ah oui, d'accord. Oui. Souviens-toi, un podcast, ce n'est que audio. Peut-être un jour on passera en vidéo, qui sait, ça m'étonnerait très fortement.
Pour voir les darons dégueulasses.
C'est clair. Sur Twitch, peut-être.
Nous, on a un physique à faire de la radio, je te le dis.
c'est pas faux. Donc, Mad Max. Ça retrace l'histoire de Max Rokatansky. Désolé, j'arrive pas à le dire, j'ai un peu de mal. Alors, à l'époque, incarné par Mel Gibson, qui, après avoir vu sa famille se faire tuer par des motards, se met en quête de vengeance dans un univers désertique où l'essence et l'eau sont des denrées plus que précieuses. Mad Max, c'est violent, c'est beau et c'est culte. Je crois que là, on est d'accord. Mad Max, il a quand même influencé de nombreux films post-apocalyptiques et ça reste une référence incontournable dans le genre parce que ça a débloqué pas mal de trucs. pour un peu vous mettre les images, on est dans le désert, mais le désert australien. Orange. Oui. Voilà, je sais pas comment dire, avec des personnages quand même très, très particuliers, très, un peu genre voyous, des genres de punk. C'est assez, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu dur à expliquer, mais...
C'est du métal, c'est métal hurlant, tu vois, c'est,
ouais, exact.
C'est ça, c'est punk avec des trucs à clous, avec la guitare électrique, il y a, ouais, du lance-flammes, il y a du...
Ouais, donc c'est exactement ça, et en fait, ces vieux films-là, ils ont retrouvé une nouvelle jeunesse en 2015, avec un film qui est pas la suite de Mad Max, mais qui reprend en fait l'histoire, à peu près, hein, avec pas mal de choses qui ont été modifiées. À la place, alors c'est Tom Hardy qui remplace Mel Gibson, qui est trop vieux pour ses conneries. Mm. Petit check à ceux qui ont la ref. Et on y retrouve également mon ex-femme, Charlize Theron. Autre petit check à ceux qui ont la ref. ça c'est un peu plus compliqué à voir, celle-là. Et donc, elle, qui est Charlize Theron, elle joue Furiosa. Et le film s'appelle Mad Max Fury Road.
Ouais, il est bon aussi, celui-là. Alors, c'est Miller aussi qui a fait le nouveau... Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est un putain de bon film.
Le vieux ou le nouveau ?
Non, le nouveau.
Parce que du coup, je me demande si l'ancien est quand même toujours bon.
Alors franchement, je l'ai pas revu récemment, mais je les avais vus. Et l'ambiance est très très bonne. Après, ça vieillit, bien entendu, parce que c'est des films qui ont 40 ans. Mais l'ambiance, elle est là, ce côté, tu sais, angoissant là, de toujours manquer de quelque chose et tout, il est quand même très présent, et les décors sont fous, même à l'époque.
En fait, l'image du film, l'image, est dingue, parce que à la base, je suis pas fan des films qui puent trop la testostérone, tu vois. Et pour moi, Mad Max en est un.
Ah bah oui.
Il y a de la grosse voiture, il y a de la bagarre, il y a machin et tout. Mais le monde s'y prête tellement. Et en fait, c'est beau. Putain, même les scènes de course de voiture, ils ont réussi à créer des scènes visuellement épiques.
Ouais, ouais, ouais. C'est magnifique. Et avec la technologie d'aujourd'hui, ça rend ultra bien. Et en plus, honnêtement, bon, les acteurs sont bons, les décors sont fous, le film, il est chargé d'adrénaline. Ouais. Et en fait... les personnages visuellement, ils sont aussi hyper marqués, ils sont tout
charismatiques.
Et en fait, j'ai regardé ce film, j'étais, je sais pas comment te dire, j'avais l'adrénaline moi aussi, t'es à fond.
Oui.
Et en plus, ouais, le film est ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il est quasiment en temps réel, quoi. Je sais pas si, c'est-à-dire que le film, je sais pas, il dure 2 heures et ça raconte peut-être pendant une heure et demie, c'est 1h30 de direct, quoi. T'as un peu avant, un peu après, mais pendant 1h30, c'est un camion qui se fait poursuivre par d'autres voitures, camions, motos, etc. C'est que
le
ça.
Le résumé pourri, tu sais. Fais-moi un pitch pourri. En fait, c'est dans un désert australien, un mec avec une nana qui se font poursuivre en camion par des...
Ouais, par des motos.
Des motos et des voitures.
Voilà. Mais c'est...
Pour aller chercher une citerne.
Et pourtant, eh ben moi, j'ai ultra kiffé le Fury Road. Et si j'ai eu envie d'en parler, c'est aussi parce que cette année va sortir un nouvel opus de la saga qui revient sur le personnage donc de Furiosa et qui va raconter son odyssée, comment elle est arrivée à Furiosa.
Donc c'est un préquel ?
C'est ça, c'est un préquel à Fury Road, exactement. Et je vous invite à regarder la bande-annonce qui est vraiment... qui est dans... Tu sens qu'on reste quand même dans l'ambiance et ça va le faire, j'en suis sûr.
La bande-annonce est déjà sortie là ?
Ouais.
Et comment il s'appelle le film ?
Furiosa.
Mad Max Furiosa ou Furiosa ?
Je crois qu'il s'appelle que Furiosa.
D'accord.
Mais okay. C'est complètement l'univers Mad Max, c'est vraiment...
Ouais, je regardais le nom de Mad Max en fait.
Non, c'est que Furiosa, hein, je te confirme.
Bon, après Mad Max, c'est Mad Max.
Avec Anna Taylor-Joy qui...
Je l'aime pas, elle.
Ah, bah désolé.
C'est la Queen Gambit, là. Jeu de la reine.
Il me semble que... Ah, attends, oui.
Moi, je l'aime pas.
Oui, oui, c'est elle. Ah ouais, pourquoi tu l'aimes pas ?
J'aime pas sa tête. Après, pourtant, il y a des films que j'ai vus d'elle qui étaient super, mais j'aime pas sa tête.
Et aussi, il y aura aussi Chris Hemsworth qui est...
Oui, bah mieux.
Qui est Thor, en fait, tout simplement.
Oui, mieux. Mais effectivement, je me disais, pourquoi pas Mad Max Furiosa ? Mais non, parce que si c'est un préquel, Mad Max, c'est Mad Max.
Oui, ouais, effectivement.
Mad Max, c'était le mec. Donc en fait, non, elle le connaît même pas.
Oui, voilà, c'est ça. comme ça se passe donc avant, elle le connaît pas, donc c'est comment...
Tu peux pas mettre un film alors que le mec, il est même pas dedans.
Oui, mais c'est ça, ils auraient pu le mettre pour dire que ça fait partie de la saga, parce que ça reste un Mad Max. Hein.
Bon, écoute, on va demander, demander à l'autre, au créateur.
Bon, en tout cas voilà, déjà, regardez... je vous invite peut-être à commencer par Fury Road, qui, si vous connaissez pas, parce que c'est vrai qu'il est actuel et qu'il marche très 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 bien. Si le monde,
pas besoin de retaper dans les anciens. Hein. Le Fury Road vous redonnera tout le monde, le contexte et tout.
Oui, mais après, les autres sont très bien aussi, donc à voir aussi. Et puis après, voilà, 2020, je pense qu'il va pas tarder à sortir, vu que la bande-annonce est déjà là.
Ah, ça me chauffe, j'irais bien me faire un petit IMAX pour aller voir
ça. C'est ce que j'allais dire, et typiquement un film à aller voir au cinéma, ça, clairement, clairement. Bon, on peut se l'organiser tous les deux, hein, ma chérie.
Eh oui, bah avec notre rendez-vous, bah carrément, en faisant un rendez-vous professionnel.
Eh oui, bien sûr.
En buvant une bière à la sortie du ciné, et puis go.
Eh bah c'est acté. Allez, ça part de là.
C'est validé. Et sur ce,
en attendant, on passe à l'insolite. Allez.
Allez, go, go, go.
Pour l'insolite, vous allez nous faire rire ou nous faire peur?
Alors, je suis pas sûr de pouvoir t'embarquer avec moi sur cette reco-là, mais je voulais quand même la partager, parce qu'il y a des gens qui...
Je te suivrai au bout du monde, Damien.
Ouais, mais là, tu vas voir, t'as tes limites. Je voudrais te parler d'un podcast qui s'appelle La Société de Minuit.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Et c'est un podcast d'histoire paranormale.
Ok.
Tu m'accompagnes toujours ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Allez, alors celui-là, là où il est original, c'est qu'en fait, chaque épisode... En fait, c'est une histoire qui est contée. Et la créatrice de ce podcast, qui s'appelle Tatiana Benamou...
C'est pas si compliqué.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'il y a un H au milieu et ça m'a perturbé. Donc Tatiana, en fait, elle explique que... Donc, en off, hein, pas dans le podcast, mais qu'en gros, c'est un peu inspiré, tu sais, de Chair de poule, Conte de la crypte, oui. Fais-moi peur, etc. Dans la façon dont c'est réalisé. Mais... Là où je trouve dingue ce podcast, c'est qu'en fait, donc, à chaque épisode, c'est une personne différente qui le présente.
D'accord.
Sauf que ce qu'elle présente, c'est quelque chose qu'elle a vécu.
Donc, pour de vrai ?
On n'est pas pour de vrai. Donc en fait, ces épisodes ne sont pas des épisodes de légendes urbaines ou creepypasta ou autre, dont je suis friand hein, particulièrement. Mais en fait, dans chacun de ceux-là, c'est une personne... qui va raconter quelque chose qui lui est arrivé sur 2 jours, sur 1 mois, sur 1 an, sur 10 ans, etc. Mais quelque chose d'estimé paranormal ou inexpliqué. Et ce que j'aimais dans le concept, c'est qu'en fait, c'est le principe de la société de minuit. C'est-à-dire qu'en fait, Tatiana Benamou a inauguré avec le premier épisode en racontant quelque chose qu'elle a vécu elle. Mmh. Et en fait, chaque personne... qui vient et qui intervient, en fait, fait grossir la société. Et en fait, c'est le pitch, c'est que chaque personne qui va raconter son histoire, et dans le pitch, elle dit, on est tous différents, on ne se connaît pas, on n'a pas vécu les mêmes endroits. Par contre, on a un point commun, c'est qu'on a vécu quelque chose de paranormal. Et en gros, chaque personne qui va enregistrer son histoire fera partie de la société de minuit.
Donc
j'aime bien sur le principe, et j'aime bien le fait que pour une fois, on n'est pas sur un podcast qui va raconter des histoires d'horreur, mais donc des fois, c'est pas fou, des fois, c'est quand même dingue, mais dans tous les cas, c'est toujours quelque chose de très inexplicable, inexpliqué. Et ce qui est énorme, c'est que c'est raconté directement par les personnes.
Oui, par les personnes. C'est un genre de transfert, mais version paranormale, quoi. Tu connais
oui,
pas le podcast transfert.
Non, oui, sauf que là, il parle pas de « je me suis fait violer ».
Oui, ouais, non, ça,
c'est ça.
C'est clair.
Non, mais voilà, on est sur quelque chose de truc. Il y a des trucs qui sont dingues, je te dis. Il y en a qui sont un peu gentils, il y en a qui sont dingues. J'aime bien. Et la réalisation, elle est très bien faite.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, on va te dire, ben, en fait, il y en a par exemple qui vont te parler de trucs médiumniques ou des gens qui sont capables de voir les morts, par exemple. Je vais te donner un exemple. Mais... Et en fait, début d'épisode, il va dire, voilà, en fait, bah, 7 ans, tout allait bien. Et genre, en fait, en fond sonore, il va y avoir une petite mélodie. En fait, c'est bien... C'est vraiment monté,
c'est bien monté
comme
ouais.
des histoires. Tu vois ce que je... ouais, c'est ouais. pas monté comme une interview, c'est pas monté
ouais,
machin.
Ouais,
je crois que de tous les épisodes que j'ai écoutés, il y en a qu'un qui a été monté en type interview. Et je pense qu'elle a fait ça parce que la narration, en fait, sans le faire dans ce format-là, ça fonctionnait pas bien. Je sais pas pourquoi, mais en général, c'est bien monté. Et en fait, ils mettent une ambiance sonore, etc. C'est super bien construit. De façon à ce que tu l'écoutes comme tu aurais un épisode d'un Chair de poule.
Et est-ce que ça débunk après ou pas du tout ?
Des fois, les gens débunkent d'eux-mêmes, en fait. Ils disent, voilà, ben, j'ai vécu ça, pour moi, c'est moi. Mais non, mais globalement, non, parce qu'en fait, chaque épisode, il n'y a pas un épisode où on dit tout ça, j'y ai cru et c'était rien.
D'accord, ok.
Mais il y a des épisodes où certains disent, voilà, j'ai vécu ça. Moi, malgré tout, je ne crois pas dans ces choses-là. Mais malgré tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Donc après, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas de debunk, mais d'un autre côté, tous ne sont pas fonds. Il y en a qui arrivent, ils te disent, voilà, je suis médium, je vois des fantômes depuis que je suis petit. Un jour, il y avait le fantôme du voisin, un truc comme ça. Enfin, j'invente, hein, on est d'accord, on s'en fout.
Ouais.
Mais voilà, donc tu as toutes les sensibilités selon les épisodes. Mais certains te le disent, ils disent, ouais, là, je suis clairement très rationnel de base, sauf qu'en fait, ce que j'ai vécu 6 mois dans un appartement, c'était un calvaire, et tout ce qui m'est arrivé, voilà, je vous dis ce qui m'est arrivé, c'était dingue, mais j'ai jamais compris.
Ok, et au niveau format, c'est combien de minutes ?
Moi, j'ai regardé le plus court 20 minutes, le plus long 40. On est vraiment sur l'entre-deux, plutôt un format bien 35 quand même en moyenne, mais de temps en temps, il y a des histoires un peu plus courtes... d'autres. Et c'est un épisode d'une histoire une personne.
Ok, et il y a combien d'épisodes aujourd'hui ?
40. Le podcast existe depuis 2022.
D'accord, ouais, donc c'est actif quoi.
Ouais, ça c'est actif. Après, pour ta question, je vois où tu veux en venir. Par exemple, si t'es pas du tout dans ce délire-là, je sais pas s'il est intéressant, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si quand tu regardais les mystères, ça te faisait un petit peu frissonner, ça peut être intéressant, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais après, il y en a qui sont vraiment... est totalement hermétique à ça, tu vois ce que je veux dire. Donc
ouais,
après, non, c'est pas intéressant. À la limite, je pense que si t'es hermétique, vaut mieux plutôt écouter des trucs que j'écoute de type creepypasta, où on va raconter les légendes urbaines, parce que tu te dis, voilà, c'est pas du tout réel, parce que là, le problème, c'est que les gens te racontent en disant, je l'ai vécu. Donc, c'est moins sensationnel, mais si tu crois, enfin, si tu crois pas du tout, c'est encore moins intéressant, parce qu'en fait, ça passe de valeur. Moi, j'aime bien, parce que j'y crois, ça, c'est ma nature, et c'est vrai que du coup, en fait, les histoires, je les trouve folles, et racontées par les personnes, elles me touchent.
Après, moi, je t'avoue, ce qui me fait un peu peur, c'est 40 minutes, une seule histoire. Tu vois, soit je l'écoute en accéléré.
Comme je te dis, le montage fait que ça rend super bien.
Mais je vais essayer. Écoute, c'est même si c'est pas forcément mon truc, mais comme j'aime beaucoup les histoires, je vais essayer.
Ouais. Okay, en tout cas, ça peut être. Si ça te plaît un minima, en fait, ça peut être intéressant.
La glace société, tu m'as dit.
De minuit.
Ok. Ben merci beaucoup.
Voilà.
C'est pas une propriété d'une seule plateforme.
En fait, ben, c'est un podcast de la Sucrerie Podcast, de ce que j'ai vu.
Je connais pas.
Mais ah oui, mais non, mais tu
c'est ouais, pas une exclusivité.
C'est, c'est comme nous, tu trouves Spotify, Deezer.
Ouais, voilà, c'est pas une exclusivité.
Je crois que c'est des Ocha.
Ah ok. Bon, ok. Ça va.
Ouais, donc vraiment partout.
Ben merci.
Avec plaisir.
Allez, on passe à l'empreinte, si cela te convient.
Allez, go.
La chronique préparée à la dernière minute, c'est l'empreinte.
Pour l'empreinte, je vais faire une roco qu'aurait certainement pu faire Jadou. C'est peut-être même possible qu'elle ait déjà vu, parce que c'est une série d'animation qui est sortie en 2021 sur Netflix.
Ça s'appelle... Et qui s'appelle Nimona. non, fais pas ça.
N'empêche que Nimona, petite parenthèse, ça plaît beaucoup à mes filles.
Tu l'as vu après
Après Taroko. C'est moi qui l'ai conseillé aux filles et de ta part. Et elles ont bien accroché. Maintenant, je l'ai vu 50 fois.
Ah, t'as vu, elle est chouette.
Ouais, elle est pas mal du tout. J'aime bien la petite. Donc non, ce n'est pas Nimona, c'est Maya, princesse guerrière. Que veut dire ce petit rire ? Tu connais,
parce que ça me dit quelque chose, mais je crois que la grande l'a vu et du coup, on l'a jamais regardé parce que la grande l'avait vu.
D'accord. Alors, je ne l'ai pas vu, hein, c'est un emprunté. J'en ai juste entendu parler. Alors, j'en ai entendu parler dans un autre podcast qui en disait beaucoup de bien. Je suis allé voir la bande-annonce et les images ainsi que l'univers, ça m'a donné envie de vous en parler. Alors, pour l'histoire. Situé dans un monde basé sur la Mésoamérique précoloniale, Maya, une princesse guerrière, célèbre son 15e anniversaire. Mais lorsque les dieux du monde souterrain apparaissent et annoncent qu'elle doit payer pour les méfaits de sa famille, tout change. Si elle refuse de partir, le monde sera ravagé par les dieux. Donc pour éviter ça, elle se lance dans une quête pour accomplir une prophétie qui dit que 3 guerriers apparaîtront et l'aideront à vaincre ses dieux et à sauver l'humanité de la destruction.
Oh.
Alors, c'est un peu dark sur l'histoire, mais en fait, je pense que c'est vraiment une série pour enfants à partir de 6 ans, quoi, je dirais. Tu vois, c'est pas un truc pour les tout-petits, c'est pas Shipper, arrête de shipper, là.
Mais... Oui, mais par contre, c'est le pitch d'un voyage, et ça, j'aime bien.
Mais ça a l'air pas mal, ouais, c'est une quête, quoi, peut-être. Alors,
une quête, ouais, parce que ça ressemble au Magicien d'Oz.
Ouais, c'est...
En fait, elle va rencontrer petit à petit dans son voyage des gens, elle va leur aider à affronter leurs propres peurs pour qu'eux l'aident à arriver à la fin.
Alors,
c'est Magicien d'Oz.
C'est un peu ce que j'ai compris, ouais, peut-être. Sauf que là, on est plutôt dans un univers mythologique maya.
Donc... Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, mais c'est pas ce que je croyais, je viens de regarder des images, mais c'est pas le film que je croyais.
D'accord.
Parce que je crois qu'il il est sorti en même temps un film, c'était genre Nana, Princesse d'Amazonie.
Ah, ok. Ah ben non, là c'est...
Mais c'est pas du tout dans le même design ni rien, donc...
Non, non, là c'est plutôt... Ah, plus, oui, c'est Amérique du Sud, hein, mais c'est plutôt ouais, dans l'univers maya, avec des décors et des couleurs que je trouve très jolies dans la bande-annonce. Et en fait, c'est du maquillage, les personnages sont maquillés un petit peu, tu vois, ce côté un peu vraiment sud-américain, quoi.
Oui, ça me fait penser au El Día de los Muertos.
C'est ça, ben c'est un petit peu, ouais, cette...
Entre ça et l'Amazonie.
Ouais, c'est ouais. Ça. Alors c'est...
Et je confonds avec Ainbow, Princesse d'Amazonie, tu sais, qui est sorti à la même année. Putain, enfin, faut le faire, ouais.
Sur Netflix aussi ?
Non, au cinéma.
D'accord. Donc, Maya, Princesse Guerrière, c'est une mini-série qui ne comporte qu'une seule saison de 9 épisodes. Et chaque épisode dure environ 30 minutes.
Ah, je croyais que c'était un film, moi.
Non, c'est une mini-série. Alors, c'est bizarre que ça soit monté comme ça, mais pourquoi pas. Et puis, du coup, ben, ça se binge-watch assez facilement, hein, je pense. Alors, au niveau des voix, parce que je sais que ça t'aime bien, c'est pas très connu. Entre autres, on a la voix, pour le personnage principal de Maya, on a la voix de Zoé Saldana. Donc, d'accord. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Gamora dans Le Gardien de la Galaxie. Ou Neytiri dans Avatar. Désolé, hein. Chaque fois que je dis Avatar, ça me remonte. Mais c'est une super actrice, mis à part ça. Donc, bon, après nous, je ne sais pas si on en profitera. Je ne sais pas qui fait la voix de Zoé Saldana en français, Damien.
Là, je regarde, c'est Camille Donda.
Ah oui, non, je ne connais pas du tout.
Donc c'est celle qui fait Miley Cyrus, Dakota Fanning,
okay.
Des trucs comme ça.
C'est toi le spécialiste, ouais. Je te crois.
C'est Lilo dans Lilo et Stitch.
Ok.
Voilà, c'est mieux.
Là, ça me parle un peu plus, mais... Mais voilà. Donc, quoi dire d'autre ? Pas grand-chose, c'est sur Netflix. Et puis, on va se tenter ça pour essayer de voir un peu moins d'Imona.
Oui. Ouais, faut recycler un peu.
Ah ouais, parce que là, elle est sympa, mais bon.
Oui, Imona, il est génial les deux premières fois. Après, ça pique.
Ouais. Voilà, mon cher ami. Je n'ai plus d'autres... informations à vous divulguer.
Petite excuse Netflix. Bah écoute, moi c'est vacances scolaires, donc c'est le bon moment pour voir un petit peu ce qui se sort.
Action.
Allez, réaction. Et si on passe au récap entre temps ?
Allez, go.
Allez. Attends, Flo.
Ouais, je suis là. Ouais,
avant de passer au récap, tu te rappelles que en fait, de temps en temps, je voulais revenir sur des chroniques quand on avait. Parce que quand, oui. Pour une fois, je me rappelle et je regarde ce que t'as proposé. Et je voulais revenir effectivement sur la série The Bear.
Oui, tout à fait.
Et voilà, parce qu'on s'est lancé dedans. On s'est lancé dedans avec Judith. Et effectivement, c'est une bonne dinguerie. Je reconnais effectivement le bordel que t'as voulu nous présenter et qui pour moi était affilié au jeu de société Cosmopolite. Où il y a ce feeling où en fait c'est pressé, faut aller vite, tu fais tout et en même temps le pire c'est que la série, parce que ça a été le commentaire de Juste qui dit c'est fou parce que moi qui s'en fout des trucs liés à la cuisine, en fait c'est dingue. Et en fait je me dis, c'est une série, l'aspect cuisine est vraiment anecdotique dans cette série. Et pourtant, elle est là, elle est au centre, c'est un des personnages de la série pour moi, la cuisine. Mm. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah ouais, enfin, très bien.
Le restaurant. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout de qu'est-ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire ? Ce serait un truc qui ferait des pâtes ou qui ferait des frites. Qui ferait des...
Mais c'est pas,
des
c'est trucs, pas le,
c'est un argument. Et pourtant, tu les vois, tu vois exactement ce qu'ils sont en train de cuisiner, comment ils font, comment ils... Trucs. Mais dans le rush du service, en fait, tu vas quand même avoir leurs histoires personnelles qui va être dedans, et les dialogues en fait sont liés à leurs problèmes, tu vois, entre eux. Mais malgré tout, on voit ça, et en fait, quand tu tombes en paix dans le service, c'est là où en fait tout le monde se lâche, parce qu'en fait t'es dans le rush, t'es pressé, et faut évacuer. Et c'est là où t'as toutes les émotions qui débordent, donc en fait, effectivement, je valide.
Ah, ça fait plaisir.
C'est une dinguerie, cette série. Donc j'ai pas fini,
non, mais, ça fait zizir,
mais je suis sur la fin de la saison 1, très bien. C'est de la bombe.
Tu peux y aller. Bah écoute, ça fait zizir, voilà. On peut passer au récap pour de vrai.
C'est allez, c'est parti.
Vous aussi, vous avez déjà oublié de quoi ils ont parlé? Allez, on fait le récap.
Alors, dans le 9, j'ai parlé du film Everything Everywhere All At Once.
Heureusement que c'est toi qui l'as fait, celle-là, parce que moi, je serais incapable de redire le titre.
T'aurais dit tout, partout, tout. En même temps.
Voilà. Pour le vieux, on a parlé de la saga de film Mad Max.
Pour l'insolite du podcast La Société de Minuit.
Et pour l'emprunté de la mini-série d'animation Netflix Maya, princesse guerrière. Ben, merci, mon cher Damien.
Ben, merci mon Flo, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
N'hésitez pas surtout à nous soutenir sur les réseaux sociaux en partageant nos posts, en nous mettant des likes, des commentaires et aussi à nous mettre des bonnes notes sur les plateformes de podcast, ça fait plaisir.
Ben oui. En tout cas, vous trouverez toutes nos recos et le descriptif de l'épisode pour les flemmards qui veulent pas tout écouter et choisir directement une catégorie qui les intéresse dans le descriptif de l'épisode. Et on vous dit à bientôt, et d'ici là, sachez que la rivière qui traverse la Roumanie et la Moldavie s'appelle la Prout. C'est pas moi qui écris les textes.
Allez, c'est mignon, c'est mignon.
Oui, c'est mignon, c'est gentil.
Voilà.
Allez,
les
sur bouches, ça.
Parce que nous, c'est Bouche du Rhône, c'est Bouche du Prout.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Allez sur ce, bise la nuit.
Ouais, bisous, ciao, ciao.
C'était les Rocos du Cafouche. À très bientôt.
Pour moi, c'est une seg, peut-être, je te l'accorde.
Une bonne seg.
Mais je suis pas. Mais c'est une bonne seg, c'est ça. C'est la seg qui te fait du bien à la fin.